Alors, on va faire un cours sur la halakha de Pessah. Comme chaque année, il y a une mitzvah. Avant Pessah, d'étudier la loi de Pessah, comme ça, c'est depuis Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit qu'il aime l'Israël, l'Itasek, Be'ilchot, à Pessah, Be'Pessah, Chot Be'chag, Be'chag. Et comme ça, c'est la coutume dans tout le peuple juif. Alors, on va parler un peu des Hilchot Pessah et je vais faire d'abord un cours. Ça va prendre un peu plus qu'une heure, je pense. Et je vais dire les bases des Hilchot Pessah. Et les questions, on va demander à la fin. Si au milieu, vous avez des questions, ne demandez pas au milieu, s'il vous plaît. Sinon, ça va troubler. Et peut-être la réponse viendra plus tard dans le cours. C'est à la fin du cours. Alors, vous allez poser des questions dans une façon mesoudar. Monsieur Yuz, on va vous donner la parole l'un après l'autre, ce qui a besoin. Et pour le moment, je vais faire le cours. Alors, ben c'est là. Pessah, il y a plusieurs mitzvot. Il y a des mitzvot qui concernent le Yom Tov. Ce sont des mitzvot minatora, la mitzvah de Kedushat Hayom. Il y a la mitzvah d'Aliyat HaRegel qui est marquée dans la Torah Monte Yerushalayim. Il y a des mitzvot spécifiques pour Pessah. Il y a la mitzvah de manger matzah et maror, faire le korban pesach. Et il y a la mitzvah de pas manger de chametz. Alors nous allons commencer avec ce inyan de chametz. Et après nous allons parler Be'ezrat Hashem pour les autres choses. Alors au sujet de chametz, il y a une interdiction de manger du chametz pendant les 7 jours. Shivat Yamim, 7 jours, les 7 jours de Pessah, on ne mange pas du chametz. Dans la Torah, on nous parle de chametz et de sehor. Et ceux qui mangent chametz ou de sehor pendant les 7 jours, c'est grave. Nachayav Malkout, il y a du karet, Beshogeg, qu'on apporte un korban chatat. Et même Erev Pessah après-midi, c'est Assur Minatora de manger Chametz. Et c'est pas seulement Assur de manger Chametz, il est aussi interdit de profiter du Chametz. Ça veut dire quelqu'un qui va acheter et vendre Chametz, c'est Assur Minatora. On n'a pas le droit de profiter du Chametz. Et c'est interdit de profiter, Assur Bahana'a. Il y a aussi chametz et de sehor. Sehor, c'est le levain. Alors, je vais expliquer ici qu'est-ce que c'est chametz. Il y a plusieurs sortes de chametz. Il y a des choses qui sont interdites min Torah. Il y a des choses qui ne sont pas interdites min Torah, mais sont interdites min Rabbanan. Il y a des choses qui ont un safek min Rabbanan. Il y a des choses qui sont permises à Alpidine, mais si on assure à titre du minhag. Il y a certaines choses qui peuvent être de différentes minhagim. Évidemment, les choses les plus importantes, c'est les choses qui sont marquées dans le Chumash et marquées dans la Gemara qui sont interdites. Les minhagim, on les garde aussi, oui, mais ça, c'est autre chose déjà. Maintenant, il y a une interdiction pour Chametz qui est différente de toutes les autres interdictions. C'est qu'on n'a pas le droit de posséder le Chametz. Lo yira'e ve'lo yimatzé. Sehor lo yemarle. Lo yira'e ve'lo yimatzé. On n'a pas le droit de posséder le Chametz. Il faut se débarrasser du Chametz avant Pessah. Ou on détruit le Chametz. Ou on vend le Chametz. Où on fait cadeau le Chametz, sinon on le détruit. Alors, qu'est-ce que c'est Chametz? Alors, pour Chametz, il ne faut pas se tromper. Il y a beaucoup de gens qui me demandent chaque année, est-ce que je dois vendre la maison? Est-ce qu'on doit vendre la voiture, l'armoire, une marmite, un mixeur? Alors, soyons clairs, qu'est-ce que c'est Hametz? Alors, Hametz, c'est cinq céréales qui sont fermentées. C'est tout, il n'y a pas plus. Hametz, c'est quand on prend du blé ou de l'orge ou d'épeautre ou avoine ou seigle. Les cinq, ce sont les cinq céréales. Ces céréales, quand on les met en contact avec de l'eau, alors l'eau fabrique ce qu'on appelle la fermentation. La fermentation se fait parce que sur le blé, sur l'orge, sur l'aliment, il se trouve une bactérie. Et cette bactérie se développe en contact avec de l'eau. Et ce contact provoque que cette bactérie se multiplie et il mange le sucre qui se trouve dans le céréal. Et parce que ça mange le sucre, alors le contraire de sucré, c'est aigre. Le mot chametz veut dire aigre, comme chometz, vinaigre. Un pain qu'on fabrique, on fabrique la matza ou chametz, c'est quoi la différence? Les deux sont fabriqués à partir des cinq céréales. On prend du blé ou de l'orge ou épeautre ou avoine ou seigle. Et on mélange avec de l'eau, on peut fabriquer une matza. Et on peut fabriquer du chametz. La différence, elle est que la matza, c'est quand on a mélangé et on a pétri, on l'a mis dans le four avant la fermentation. Mais quand on laisse la pâte tranquille un certain temps, alors ce processus de fermentation se met en marche. Ça fabrique de l'alcool et ça fabrique du gaz carbonique. Et c'est pour ça la pâte gonfle. Une pâte qui est chametz, il gonfle. Le gonflement vient à cause du gaz carbonique. Et le gaz carbonique, il est fabriqué parce que justement cette bactérie, elle a mangé le sucre. Donc une pâte après fermentation ou avant la fermentation n'a plus le même goût. Après la fermentation, il est aigre. Maintenant, cette fermentation, on peut la arrêter. Après 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, on peut la arrêter. On peut prendre la pâte, on met dans le four, on fait sortir et on a des challot, on a du pain. C'est du chametz que la Torah elle a interdit. Maintenant, on peut laisser la pâte 2 jours, 3 jours, 4 jours. Alors, il deviendra de plus en plus aigre. La bactérie continue à se développer et elle mange toujours plus du sucre. Et cette pâte, il est archi aigre. Et quand il est archi aigre, jusqu'il est plus mangeable, on l'appelle levain. La Torah, elle l'appelle séor. Qu'est-ce qu'on fait avec le levain? On peut prendre un morceau de levain et mettre dans une pâte et il aide pour que la fermentation se déclenche plus vite. On fait des challot Shabbat. Alors, à la maison, aujourd'hui, il y en a qui mettent de levure chimique ou des chevures de boulanger. Mais le vrai boulanger, comme on lui fait, le vrai pain au levain à l'ancien qui existe encore aujourd'hui, c'est quoi? Que chaque boulanger, il fabrique d'abord du levain qu'il a laissé 2, 3, 4 jours et après il prend un morceau de ça, il met dans la pâte de tous les jours qu'il fabrique et ça fait avancer, ça fait accélérer la fermentation. Mais le pain, il sort toujours un petit peu différent parce que des fois c'est un peu plus, un peu moins, ça sort toujours un peu différent. Aujourd'hui, les boulangers, ils veulent toujours faire un produit, le même produit. Alors, on a fait des fois que ce n'est pas avec le levain naturel. En tout cas, dans la Torah, il est écrit, on n'a pas le droit de manger du chametz, on n'a pas le droit de manger du levain. Le levain, il n'est pas mangeable, mais avec le levain, on fait monter d'autres pains, d'autres pâtes. Alors, la Torah, elle a interdit le chametz, elle a interdit le sehor. Voilà. Et on mange ça ou on mange ça, on est chayav karet. Maintenant, si le processus de fermentation n'a pas encore commencé, ça s'appelle matzah. Et c'est ça qu'on met dans le four, on fait sortir, avec ça, on fait la mitzvah. Maintenant, il faut bien comprendre une règle. Il n'y a que ça qui est chametz, rien d'autre. Rien d'autre. Si quelqu'un demande est-ce que je dois vendre ma marmite, la marmite, il est en métal. Le métal n'est pas des cinq espèces. Si quelqu'un demande est-ce que je dois vendre ma maison, les maisons sont faites des briques. Ils sont faits des ciments. Ça ne vient pas des cinq espèces. Ça peut pas être du chametz. On n'a pas besoin de vendre une voiture. La voiture, elle est faite. Un moteur n'est pas chametz. Il n'y a rien qui est chametz que si c'est à base de ces cinq produits. C'est tout. Il n'y a rien de plus. Il ne faut pas se casser la tête. Il faut respecter bien ce qui est marqué dans la Torah, dans la Gemara, au Shulchan Aruch. On n'a pas besoin de faire plus. Si on fait plus, peut-être on fera moins. On fait seulement plus ce qui est marqué au Shulchan Aruch, qu'il y a des dinim de Rabbanan et il y a des minagim, mais pas plus. Maintenant, tous les autres fruits, légumes, mitzadadin, c'est permis. Mitzadadin, selon la halakha, le riz est permis. Tout est permis sauf ces cinq. Maintenant, il y a différentes sortes de blé, c'est vrai. Il y a toutes sortes de blé, mais ça s'appelle, c'est du blé, différentes sortes d'orge, tout ça, ça c'est interdit. Mais ce qui n'est pas de ces cinq espèces, ça n'est pas chametz ni sehor. On peut les garder et mitzad hadin, on peut les manger. Maintenant, il y a des minagim, certaines ne mangent pas du riz pendant Pessah. Il y a minag, ceux qui ont ce minag, ils ne mangent pas, mais c'est un minag. Et s'il n'y a rien d'autre à manger, il y avait des moments où il y avait une famine. Dans ce cas-là, ceux qui n'avaient pas la coutume de manger le riz, ils mangeaient le riz, c'est permis. Il y en a qui ne mangent pas des kitniot, des légumineux, des minagim. Alors, maintenant, il existe du chametz pur. Il existe du chametz mélangé avec un autre aliment. Ce n'est pas du chametz pur. Le chametz mélangé avec un autre aliment s'appelle dans la Gemara chametz alidé ta'arovet. Mélange avec ta'arovet. Alors, quel est le din chametz alidé ta'arovet? C'est interdit. C'est interdit de manger. Et c'est interdit de posséder. Est-ce que c'est interdit minhat Torah ou c'est interdit midrabanan? Chametz Torovet. Alors, quand il y a une certaine grande quantité, ça veut dire qu'il y a au moins un sixième du chametz dans ce mélange. On appelle ça kezait begdei achilat pras. S'il y a à peu près un sixième du chametz dans tout ce mélange, on considère ça assur min haTorah de manger. Si c'est moins qu'un sixième, si ça donne un goût, c'est aussi, si le chametz donne un goût, c'est aussi interdit min haTorah. Si ça donne pas de goût et c'est moins qu'un sixième, il n'y a pas de sixième. Il n'y a pas d'issour de manger, mais est-ce qu'on peut le posséder? On n'a pas le droit de le posséder. D'après la Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de le posséder même si c'est moins qu'un sixième. Chametz alidei ta'arovet, si dans tout le mélange il y a un kezaït du chametz, malgré que la grande majorité n'est pas Hametz, d'après le Machaber, c'est Assurmina Torah de posséder, d'après d'autres poskim, c'est Midrabanan interdit de posséder. Mais d'après tout le monde, il faut l'enlever de la maison. Il faut pas être propriétaire. Quand je dis enlever de la maison, ça suffit pas de le mettre dans la cave, c'est interdit de posséder. Il faut le vendre ou il faut le donner cadeau à un non-juif ou il faut le détruire. Maintenant, ça c'est Hametz al-Yedei Ta'arovet. Maintenant, ce din de Hametz al-Yedei Ta'arovet qui est interdit de posséder, c'est seulement si ce Ta'arovet se mélange est un aliment. Mais si le mélange a été fait avec des choses qui dénaturent la Hametz, qui le rendent pas mangeable, il n'y a plus d'interdiction de garder à la maison. Hametz, tarovet hametz, qui n'est pas une nourriture, qui n'est pas un aliment, la Torah n'a pas interdit, tu peux les garder à la maison. Est-ce qu'on peut les manger? Selon la Torah, on peut les manger. Mais selon la majorité des poskim, on n'a pas le droit de les manger. Si on est malade, si on a besoin, dans ce cas-là, cette interdiction de Rabbanan, elle se met à côté et quand c'est un pikuach nefesh, on peut manger même du pain. Évidemment, évidemment, quand c'est pikuach nefesh, on mange ce qu'il faut manger. Et si quelqu'un a ce jour, il est à l'hôpital, il a besoin des forces. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire entrer de nourriture dans les hôpitaux. Mais pour survivre, il faut manger, il faut avoir de la force. Évidemment, on mange ce qu'on nous donne. Si on en donne à manger kasher, tant mieux. Si à ce shalom, il n'y a que de la viande pas kasher ou que de Hametz Pessah, on a besoin de la force. La vie est avant tout. Il faut manger. Si on peut éviter de manger et quand même être fort, on peut éviter de manger. S'il y a de la viande ou une soupe de viande, et la soupe de viande donne aussi de la force, on mange la soupe et pas la viande. Mais on a le droit de manger tout ce qu'on a besoin. Pas seulement on a le droit de manger, on est obligé de manger. S'il reste quelqu'un qui doit aller à l'hôpital, il faut qu'il mange, s'il peut manger, qu'il mange pour avoir de la force. On va revenir maintenant chez nous. On avait dit Hametz, si c'est mélangé avec un autre produit et l'autre produit rend le Hametz immangeable, il n'y a plus d'interdiction de garder à la maison et selon la Torah, il est permis même de le manger. Sans même des rabbanan, on ne le mange pas. Pas tous les postes qui pensent comme ça, mais comme ça, un jour, on dit le ratril, on ne le mange pas. Si on est malade, même si on n'est pas en danger de mort, on a besoin, on peut les manger. Si on n'a pas besoin, c'est un luxe. Dans ce cas-là, on ne les mange pas. Qu'est-ce que nous sortons de ce chidouche? Que les produits, il y a beaucoup de produits à la maison où peut-être il y a du hametz dedans. Ce n'est pas sûr. Il y a des fois un hachash. Amidon de blé, peut-être, mais c'est dans un savon, c'est dans du cirage de chaussures, c'est dans mille autres produits qui ne sont pas mangeables. Eh bien, on a le droit de les garder à la maison. On n'a pas besoin de les détruire. On n'a pas besoin de les vendre. Pas besoin de les vendre. On peut les garder. C'est pas un aliment. Ainsi, les médicaments, la grande partie des médicaments, 98% des médicaments, le goût n'est pas bon. Même dans l'hypothèse où il y a dedans amidon de blé ou quelque chose du genre, ou glucose qui peut devenir de Hametz. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut fermer le. Comment on ferme là? Moshe, tu es là? Moshe, tu es là? Moshe, comment je fais? Moshe, tu es là? Bon. Alors. Veuillez fermer, Monsieur Sidbon, veuillez fermer votre télévision, s'il vous plaît. Voilà. Veuillez fermer, s'il vous plaît. Fermez la télévision. Vous pouvez écouter, mais fermez la télévision, s'il vous plaît. Alors, on a le droit de posséder à la maison. Donc, les médicaments, 98% des médicaments sont considérés comme non mangeables. Ce n'est pas une nourriture. Ce n'est pas bon pour manger. Donc, on peut les garder à la maison, même s'il y a du chametz. Maintenant, il y a une deuxième chose qu'il faut connaître. Il y a quelque chose qui s'appelle chametz nouksha. Chametz nouksha, c'est du chametz que la fermentation n'a pas bien réussi. Soit parce qu'on n'a pas laissé assez du temps de fermenter. Ça veut dire le processus de fermentation était enclenché, mais il n'a pas allé jusqu'au bout. Alors, ce chametz, on appelle chametz nouksha. Il y a des différents degrés dedans dans la Mishnah. On l'appelle aussi seyor dans la Mishnah, pas seor, le levain de la Torah. On l'appelle dans la Mishnah dans Psachim seyor. Il y a des différents avis, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, des différents avis. C'est quoi le Seor? Il y a du Seor qui est Assur Midrabanan. Ça veut dire au début de la fermentation, ça commence à fermenter, mais c'est pas aller très loin la fermentation. Dans ce cas-là, c'est Assur Midrabanan. Si ça continue à se développer, à un certain moment, ça devient Assur Minatora. Il y a beaucoup de produits. On nous dit qu'il y a amidon de blé dedans, mais ce n'est pas forcément du vrai chametz. C'est possible que c'était de chametz nouksha. Chametz nouksha, c'est un début de fermentation, mais ce n'est pas vraiment fermenté. Maintenant, il y a une deuxième sorte de chametz nouksha, que pendant la fermentation, on a déjà mélangé quelque chose qui fait que c'est pas bien à manger, qu'à la fin, ce sera pas bien à manger. Ça aussi, c'est Chametz Nouksha. Donc, beaucoup des produits où il est écrit, il y a un hachash dans des médicaments, amidon de blé ou des choses comme ça, souvent, c'est pas plus que Chametz Nouksha. Mais dans la majorité des cas, de toute façon, à 98%, il y a des choses dedans qui le rendent amer. Du moment que c'est amer, ça n'est destiné que pour les malades. Il est marqué sur Hanarouch, un produit qu'un homme normal on ne mange pas, c'est que les malades qui mangent, ça s'appelle Nifsal. Nifsal. C'est Taharov et Chametz qui est Nifsal, à plus forte raison que souvent ce n'est pas du tout du vrai Chametz, c'est du Chametz Nouksha. On peut le garder à la maison. Et si on a besoin, on veut manger, il faut pas les manger. Mais si on est malade, on peut les manger. Les produits qui ne sont pas des médicaments, qu'on mette pas dans la bouche, du savon et tout le reste, on n'a pas besoin de vendre. Maintenant, dentifrice, on met dans la bouche. Il y a beaucoup qui avalent. En plus, a un bon goût. Alors, s'il n'y a pas des cinq céréales dedans, il n'y a pas de problème. Mais peut-être il y a huit dedans. Alors, nous avons la coutume d'acheter ça qu'avec Hershère. Parce que c'est les dentifrices, parce qu'on les met dans la bouche et c'est agréable. Et les enfants le mangent et tous les adultes sont un peu enfants, peut-être. Alors, ça, on est mahmir. Mais pas pour les autres choses. Les parfums, C'est un doute. L'alcool, s'il est fabriqué à base de blé, de l'orge ou à base de pommes de terre, on ne peut pas donner des règles sur ça. Quelle est la base de cet alcool? Ça dépend quel pays, quelle année. Et des fois, il y a beaucoup de blé, des fois, il y a beaucoup de pommes de terre. Mais il peut y avoir un hashash. Mais normalement, dans les parfums, tous ces alcools qui ne sont pas faits à l'alimentation sont dénaturés, comme l'alcool qu'on fait des alcools pour la médecine, comme médicament. Normalement, il y a un produit dedans qui ne le rend pas mangeable. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ne veulent pas que les gens ils achètent ça, parce que l'alcool, il y a une grande taxe dessus et on ne veut pas que les gens. Normalement, ces choses-là, on peut les garder à la maison. Faire un bain de bouche avec de l'alcool, ça, si on peut éviter, il faut l'éviter. Maintenant, utiliser quelque chose qui est para'ouil akhila, mais on ne veut pas le manger, mais on veut les utiliser, on a le droit de les utiliser. La khumra du Shulchan Aruch, de pas manger quelque chose qui est nifsal, quelque chose qui est disqualifié, c'est seulement pour manger. Mais profiter, on a le droit de profiter de ce qui n'est pas mangeable. Malgré qu'au début, on avait dit Hametz, c'est interdit de profiter. Oui, Hametz n'est pas seulement interdit de manger, il est interdit de profiter aussi. Mais l'interdiction, c'est seulement du Hametz mangeable. Mais si ce n'est pas mangeable, c'est permis. Des fois, le Hametz, il est complètement enveloppé dans quelque chose qui le destine à une autre destination que l'aliment. Par exemple, quelqu'un, il va avoir faire un pouf. Poupat, c'est or, shiirda, la yeshiva. C'est quoi? Poupat, c'est or. Il a 50 kilos de pâte ou de levain. Il a 50 kilos de levain, mais il veut pas le manger. Il a destiné de faire un pouf pour s'asseoir dessus. Et il prend de la boue autour. Et il l'enveloppe en haut, en bas. Il l'enveloppe dans une enveloppe une espèce, une peinture épaisse. Et c'est devenu maintenant un pouf. C'est plus un aliment. L'homme, il a fait un geste où il montre clairement que cela ne sera plus fait pour manger. Eh bien, il est permis de le garder à la maison. Il est permis même de s'asseoir dessus. Mais il n'a pas le droit de le manger. Si pendant Pessah, il veut couper, il veut prendre dans sa pâte, c'est du levain, c'est assur min haTorah de manger. Mais il est permis de garder parce qu'il a fait un geste qui montre que ce n'est pas du tout destiné à partir de maintenant comme un aliment. C'est l'exemple de la Gemara, mais dans la vie courante, il y a d'autres exemples. Il y a beaucoup d'autres exemples que quelqu'un, il a une pâte, mais il a dénaturé, il a fait quelque chose que c'est destiné pour une autre chose, pas un aliment. On a le droit de le garder à la maison. Maintenant, le vrai Hametz, on est obligé de se débarrasser. Comment on se débarrasse du Hametz? Tout le monde le sait, la veille de Pessah, on brûle le Hametz. On peut aussi l'écraser et le jeter. On écrase des miettes, on jette dans un lac, ça aussi, ça s'appelle détruire le Hametz. On peut à la rigueur, mais faites très très attention, je ne le conseille pas de le faire. On peut en théorie l'écraser et le mettre dans la poubelle, non pas dans la poubelle, dans la toilette, mais faites très attention. Il y a des gens qui mettent le Hametz dans leur papier d'alu et ils mettent dans la toilette et ils bouchent les toilettes des fois avec. Et avec ce temps-là qui court aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a beaucoup des plombiers qui vont venir la nuit de Pessah déboucher. Ne jouez pas sur ce sujet-là. Maintenant, si vous avez du Hametz, si vous est difficile de brûler, ces jours-là, c'est un peu difficile de brûler. Si on aimait farer, on le fait vraiment petites miettes et doucement, doucement, vous les mettez toilette, vous direz, ça, il n'y a pas de problème. Sinon, il y a une autre possibilité. Si on a un challah, deux challots, trois challots, on peut verser dessus un produit qui le rend inconsommable. On met de l'eau de javel, on verse de l'eau de javel. Le pain trempé dans l'eau de javel, c'est pas mangeable. Ou on mettait un peu d'essence dessus. L'essence sur le pain, ça y est, c'est plus mangeable. Et dans ce cas-là, il n'y a plus d'interdiction. Après, on mettait à la poubelle et ça part. Si maintenant quelqu'un n'a pas d'eau de javel et Erev Pessah, il met son chametz dans la rue, même si c'est encore sa poubelle, malgré que c'est chez lui, mais tout le monde il sait que c'est un hefker gamour. C'est un hefker gamour dans une poubelle, ça va partir bientôt. Et il n'y a pas de recherche qu'il va faire un bitoul sérieusement. Donc, si on ne peut pas brûler, on met dans la poubelle dans la rue et ça va partir bientôt. Aussi, on a fait, il faut faire ça, Erev Pessah le matin. Maintenant, on peut aussi, si quelqu'un a une bouteille de vodka, il a une bouteille de whisky, le vodka, il est fait. Le vodka cher, il est fait de blé ou de l'orge. Le vodka pas pris, il est fait des pommes de terre. Ici, en France, normalement, le vodka, c'est le vodka qui est cher, qui n'est pas fait par les petits paysans en Sibérie, mais c'est des vodka chachouf. Normalement, il est fait de grains. C'est du vrai chametz. Le whisky, il vient du blé ou de l'orge. Des fois, c'est maltais. C'est du maltais, ça veut dire que le blé ou l'orge a commencé à pousser déjà le malt. Ça a déjà, au début déjà, c'est du vrai chametz. Donc le whisky et le vodka, on est obligé de se débarrasser. Par contre, les autres alcools qui viennent de vin ou de figues ou de pommes de terre, c'est pas du chametz, on peut les garder. S'il y en a un petit peu, un hachage, peut-être il y a un petit peu de chametz dedans, alors on ne le boit pas. On ne le boit pas. Mais on n'a pas besoin de verser. Par contre, le vrai chametz, bière, le bière d'Alsace, le bière Kronenbourg, tous les bières, c'est de l'orge trempée dans de l'eau et fermentée. C'est du vrai, vrai, vrai chametz, la bière. Le pain, les gâteaux, tout ça, on connaît. Ça, c'est du vrai chametz. Alors, le vrai chametz, soit qu'on le détruit, on peut le donner cadeau à un non-juif. Si le goy, après Pessah, il veut nous le redonner cadeau, on a le droit de le reprendre. Le juif, il veut vraiment faire cadeau. Il va chez son voisin. Monsieur, vous savez, c'est une fête chez nous. Je n'ai pas le droit de garder du blé, je n'ai pas le droit de garder le pain, le whisky. Je vous l'offre cadeau et c'est à vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez le boire. Je vous fais de plein cœur, je vous fais cadeau. Si maintenant le non-juif, il dit, mais c'est interdit pour la fête, après la fête, je peux vous le redonner. Alors, il peut le redonner après la fête. Mais le juif, de sa part, hein, c'est un cadeau pour vous. Je vous fais de plein gré, c'est un cadeau. Ça, il n'y a plus aucun problème. Maintenant, si on peut vendre du chametz. Vendre du chametz, la meilleure vente se fait comment? Avec un non-juif qu'on connaît. Et qui est, il a un intérêt d'acheter ton chametz. On vient chez lui et on lui dit, monsieur, j'ai quatre bouteilles de whisky. Pour nous, on ne dit pas qu'on n'a pas le droit de posséder. Est-ce que vous êtes intéressé d'acheter mes bouteilles de quatre bouteilles de whisky? Le non-juif, il va dire, mais non, mais qu'est-ce que je vais faire avec quatre bouteilles de whisky? Si vous lui dites, chaque bouteille coûte 15 euros, je vous le vends pour 5 euros. Quatre bouteilles à 20 euros, je vous le vends. Alors, si le goy dit oui, c'est une bonne affaire, mais vraiment, vous voulez, monsieur juif, vous voulez vraiment le faire? Quatre bouteilles pour 20 euros, oui. Il vous donne les 20 euros, il prend les quatre bouteilles de whisky, Très bien, Mazal Tov, Shalom à l'Israël. Si maintenant le goy ne veut pas acheter, il dit, ma ça m'intéresse pas, je ne bois pas d'alcool, vous voulez que je vous donne 20 euros, mais non, mais ça m'intéresse pas, j'ai rien à faire. Mais ça m'intéresse pas d'acheter. Et là, le juif, il dit, mais peut-être je vous l'achète après Pessah. Et on lui demande au goy, donnez-moi 1 euro. Et je vous l'achète après Pessah pour 10 euros. Alors le goy, il va pas, qu'est-ce qu'il veut exactement? Il veut le vendre pour 1 euro? Non, en vérité, les 4 bouteilles coûtent 60 euros. Il me fait un prix pour 50 euros. Mais ça m'intéresse pas d'acheter. Mais le juif me dit qu'après Pâques, il me rend l'argent. Mais au début, il me demande pas vraiment de donner. Il me demande de donner 1 euro. Et après Pâques, il me donne 10 euros. J'ai fait une bonne affaire. Ces choses-là sont problématiques. Parce que si je vends à un non-juif et je lui dis, je vous vends pas pour 1 euro. Si je vends pour 1 euro, autant lui faire cadeau. Pas besoin de 1 euro. Si je lui vends 60 euros pour 50 euros, je lui dis, ça coûte 50 euros. Et dans l'hypothèse où je ne vous l'achète pas après Pessah, vous êtes obligé de me donner les 50 euros. Peut-être le goy va dire, ah non, je ne paierai pas les 50 euros, monsieur. Je vous paye 1 euro maintenant et je vous fais confiance qu'après Pâques, vous me dispensez de payer les 50 euros. C'est bien convenu, monsieur. Je vous fais pour votre religion un service. Mais vous n'allez pas me demander 50 euros. Si c'est ça l'esprit de la vente, bien que le juif veut vendre, mais le non-juif ne veut pas acheter. Parce que pour l'achat valable, il faut que l'acheteur, il est prêt à payer l'argent que je demande. Donc, si je dis les 4 bouteilles de whisky valent 1 euro et je le vends pour 1 euro, il me paye 1 euro, c'est bien. Mais pour 1 euro, autant donner cadeau. Qu'est-ce que tu as besoin 1 euro? Mais si tu dis les 60 euros, je le vends à 40 euros, mais je ne vous demande pas les 40 euros maintenant, je vous demande qu'un 1 euro. Et je vous dis, oui, après Pâques, je vous demanderai pas les 40 euros. Ah, le goy dit, ah, vous me demandez les 40 euros. Ah, bon, d'accord. Voilà, d'accord, c'est donc ça, je suis d'accord. Ça veut dire il n'est pas d'accord de payer les 40 euros. Mais la vente, il est fait sur 40 euros. Eh bien, ça s'appelle pas du modèle. Cette problématique est une problématique qui a existé depuis toujours. Et dans la majorité des ventes qu'on fait, les rabbanim, ils ont la coutume de dire, ce genre de vente de chametz qu'on fait aujourd'hui, qui est un minhag chez beaucoup de communautés, les rav vivant le chametz, les rabbanim eux-mêmes, ils ont très peur que c'est pas valable. Parce que le non-juif, il ne sait pas quel chametz il achète, combien il achète, combien ça lui coûte. Il n'a pas d'argent pour payer tout. Même que sur chaque point seul, on aurait pu trouver une justification. On peut, contre le non-juif, il est intéressé, malgré qu'il ne paye pas tout, malgré qu'il ne sait pas exactement quelle quantité. S'il est intéressé de l'acheter, c'est une bonne affaire pour lui. Ça veut dire, même si le juif, il dit après Pessah, je ne vous le rachète pas, vous payez maintenant, vous passez à la caisse. Si les conditions que c'est une bonne affaire pour le non-juif, et il a fait sérieusement, c'est valable. Mais si l'accumulation de ce qui se passe de nos jours, il ne sait pas qu'est-ce qu'il achète, est-ce qu'il achète pour 10 000, pour 50 000, pour 100 000, pour 200 000, pour 60 000, il ne sait pas qu'est-ce qu'il achète, des demi-bouteilles, des whisky à gauche, à droite. Et il n'a pas payé l'argent au début. Il n'a pas l'argent de payer. Il n'a pas l'intention de payer. Mais c'est, il le dit, je vous arrange pour votre religion. Ça, c'est un grand problème. C'est pour ça, moi, personnellement, je déconseille de vendre de cette façon. Si vous voulez vendre, vous avez un non-juif que vous connaissez et vous faites une transaction avec lui en bonne et due forme. Si un juif, il a un magasin, il a des biscuits et il a des gâteaux et ça vaut 20 000 euros, on peut vendre. À qui? À un commerçant non juif qu'il connaît. Ça, c'est la solution. S'il y a peut-être à Sarcelles, il y a des commerçants non juifs qui travaillent avec des juifs. Un juif qui a un magasin, qui va chez un non juif et lui dit, j'ai un stock de 20 000 euros, je ne peux pas le garder. Est-ce que vous voulez acheter à 17 000 euros? Et ce non juif, il a des clients, il a un magasin, il a des clients. Les 17 000 euros, lui, il le vend à des clients juifs pour 25 000 euros. Et il fait une bonne affaire et il est prêt à payer. Et il payera même l'argent avant Pessah. Dans ce cas-là, ça c'est la solution. Tous les magasins juifs, ils doivent se préparer avec un non-juif, comment faire? Et selon le Shulchan Aruch, il est marqué, il faut mettre la chametz chez le goy, et etc. On peut trouver sur chaque détail, on peut trouver une petite couleur, mais l'ensemble des choses qui se fait, pour chaque détail aussi, c'est difficile, mais l'ensemble montre les choras que le goy n'est pas intéressé. C'est pour ça, moi, personnellement, votre pauvre serviteur déconseille de vendre du vrai chametz. Maintenant, ce qui n'est pas chametz, le cirage des chaussures, le savon, les médicaments, à 98%, on n'a pas besoin de vendre. Et si on n'a pas besoin de vendre, on ne vend pas. Maintenant, si vous avez quand même un risque, il y a un médicament qui a un bon goût. Des fois, il y a des médicaments où il y a un peu d'alcool, il y a un bon goût dedans. Et peut-être, ben, c'est un peu de blé, il y a un peu de glucose, il y a un chashash. Dans ce cas-là, vous pouvez aller chez votre femme de ménage. Et vous dites, je vous fais cadeau, et c'est à vous. Et vous pouvez vous en servir. Elle va vous dire au début, mais monsieur, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de 5 boîtes de trucs contre le tout, je ne sais pas. Je dis, regardez, moi, je vous fais cadeau, c'est à vous. Mais après Pâques, vous voulez que je vous le redonne? Comme vous voulez, si vous voulez, je peux vous le redonner. Moi, je vous fais cadeau. Du moment qu'on fait cadeau au goy, ça lui coûte rien. Quand ça lui coûte rien, il est d'accord d'acquérir. Moi, je suis d'accord de lui donner. Lui, en principe, il va le garder. Des fois, il va l'enlever ce qu'il veut. Et ce qu'il n'a pas besoin, il va vous rendre. Et vous aurez après Pessah. Ça, c'est permis. Les Juifs, ils donnent. Vous avez le droit de prendre, c'est à vous à 100%, vous faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas l'utiliser, peut-être après vous me le redonnez, mais c'est à vous entièrement. Ici, le goy, ça lui coûte rien. Comme ça lui coûte rien, il est devenu propriétaire, après il va le redonner. Ça, c'est d'après, on va pas ce qui me s'est permis. Mais dès que vous parlez d'acheter, donc il doit sortir d'argent, mais lui n'est pas intéressé. Il n'est pas client et pourquoi il achète et qu'est-ce que c'est comment faire? Alors dans les cas exceptionnels où Bahamet, je le convaincre d'acheter et tu fais une bonne affaire, là on peut faire un achat. Les autres achats sont problématiques. Que Dieu me pardonne. Alors, ça c'est vis-à-vis de la vente. Maintenant la vente, il doit être fait avant Pessah. Mais en principe, on n'a pas besoin de vendre. Il n'y a pratiquement rien à vendre dans la maison. La maison de Stam, un juif, il n'y a rien à vendre. Le Hametz, on le détruit. Et le pas Hametz, on le garde. Maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, mais j'ai une voiture. Et la voiture, j'arrive pas à faire Bedikat Hametz. Parce que la voiture, j'arrive pas. Alors ça, c'est un autre problème. Bedikat Hametz. Selon la Torah, quand un homme il fait un bitoul, il dit tout le chametz, je le rends hefker, il est pour moi que de la poussière. Selon la Torah, il transgresse pas l'interdiction de posséder chametz. Mais les chachamim, ils avaient peur que les gens ils trichent. Ils disent que je considère le chametz comme de la poussière, c'est hefker, mais si l'ego il va venir, il va le prendre. Il va lui crier, ah non, 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 tu touches pas. Dans ce cas-là, le bitoul n'est pas sérieux. C'est pour ça que Chachamim, ils ont instauré qu'avec malgré que tu fais le bitoul, tu vas prendre ton chametz et tu dois le brûler. Et tu dois le jeter. Ou tu dois le vendre. Ou tu dois le faire cadeau. Maintenant, si j'ai un biscuit dans la voiture, malgré qu'on fait le bitoul, il faut le jeter. Mais si j'arrive pas à jeter, je suis pas tour. Je suis pas tour. Et ici, si c'est une grande quantité du Hametz, en effet, on peut tricher. Je dis, je suis mevatel. En vérité, dans mon cœur, je ne suis pas mevatel. Mais pour un peu de biscuit dans la voiture qui est tombé par terre, si un kezaït, on est obligé de l'enlever. Mais si on ne peut pas l'enlever, on n'est pas tour de la bedika, on n'est pas tour de débarrasser. On fait le bitoul et après Pessah, on va retrouver la voiture. Il faut jeter ce hametz. Et si quelqu'un l'utilisera pendant Pessah la voiture, il est obligé. Dès qu'il voit le hametz, il doit tout de suite le détruire et le jeter. C'est pas difficile pour un peu de biscuit qui se trouve dans une voiture. S'il peut l'enlever avant Pessah, il l'enlève avant Pessah. Maintenant, s'il y a des miettes qui font moins que kezaït, pirourim et meile batel, des miettes qu'on marche dessus, sales, on n'a pas besoin même, mitsadadin, on n'est pas obligé de l'enlever. Mitsadadin. Le minhag, il est qu'on enlève ce qu'on peut. Des fois, quelqu'un, il a un grippe, il n'arrive pas à enlever toutes les miettes. Alors, s'il n'arrive pas à enlever toutes les miettes, ad makom shiado maga'at. Marquez sur Hanarour. Du Hametz chenafla laf mapolet. Un Hametz qui est tombé dessus une maison ou dans un mur. Un juif, il a un mur mitoyen avec un goy. Et il fait rentrer la main. Et l'enlève le Hametz. Ad makom shiado magat, où sa main ça arrive. Où la main n'arrive pas, on n'est pas obligé. On fait le bitoul. On fait le bitoul. Si après Pessah, on trouve ce Hametz, il faut le jeter. Si quelqu'un il a du Hametz chez lui à la maison, malgré qu'il n'était pas fautif, à ce moment, quelqu'un, Erev Pessah, il tombe malade à l'hôpital. Et après Pessah, il revient à la maison, il trouve du Hametz à la maison. Onès, cas de force majeure, le Hametz qui était à la maison, il doit le brûler. Chachamim, il savait que si on va dire, en cas de force majeure, le Hametz qui reste à la maison, tu n'es pas obligé de brûler, il y aura des malins qui vont garder le Hametz et vont dire, c'est un cas de force majeure. C'est pour ça, Hametz, chez Avar, à la Pessah, Hametz qui était à la Pessah, malgré que c'est honnête, c'est un cas de force majeure, il faut le jeter. Maintenant, s'il a fait le bitoul, c'est un honnête, c'est une grande somme. Dans ce cas-là, on demande le rabbin. Il y a des fois peut-être des cas exceptionnels, mais normalement, honnête, si c'est du vrai Hametz, faut le jeter même après Pessah. Maintenant, si c'est Hametz Nouksha, Hametz El Elita Rovet, certains Hametz qui sont de beaucoup de poskim de Rabbanan, le Ones, alors là, il y a certaines coulottes. Donc, si on n'arrive pas, on a un four et on enlève le Hametz, et après, il y a derrière une miette qui est tombée là où les mains n'arrivent pas, eh bien, Admakom Shiadomagat, on fait le bitoul. Et c'est un bitoul sérieux. Aucune personne fait pas le bitoul sérieux. Ah non, je voudrais le manger après Pessah. On pense pas à ça. Donc, vadaï, le bitoul, il est sérieux. Donc on est yotzé. On n'est pas obligé de faire plus. Celui qui veut verser un peu d'eau de javel pour le rendre inconsommable, voilà, bracha. Si on veut utiliser le four. Alors, ça, on va arriver maintenant au dinim de Hersher. Donc, on a parlé les dinim de Hametz, de ce or, Baliere Balimatse, la vente, la destruction, Raoui Lachila. Alors, on va engager maintenant un nouveau thème qui s'appelle la cachérisation. Qu'est-ce que c'est la cachérisation? Les ustensiles dans lesquels on a cuit du Hametz. Si on veut utiliser ces ustensiles, il faut les cachériser. Comme ça, le peuple juif se comportait depuis des milliers d'années. Alors, c'est vrai que depuis la Deuxième Guerre mondiale, HaKadosh Baruch Hu, il a donné un chef au peuple juif. qu'on a la possibilité d'acheter une vaisselle de Pessah. Et la majorité des gens, ils ont vaisselle de Pessah. Comme ça, on n'a pas besoin de cachériser. Mais des fois, il manque. Alors, il faut acheter. Des fois, on achète au dernier moment encore quelque chose. Alors, il faut le tremper au mikvé. Alors, il faut avoir un mikvé. Cette année, c'est un peu difficile. À Sarcelles, il y a un petit lac, pas loin du haut du roi, il y a un petit lac. On peut aller là-bas faire mikvé. Mais dans les mikvaot, normalement, c'est pas kedaï de ces jours-là, laissons les mikvé que pour les femmes. Ça, c'est vraiment important. Mais la tefillat kelim, c'est pas si important, c'est pas kedaï, reste shalom, de faire entrer des gens. C'est pas kedaï d'aller tromper. Je pense que c'est pas, c'est très dérangeant, c'est pas kedaï. Donc, on n'achète pas des nouvelles choses qui ont besoin mikvé. Maintenant, mais il faut utiliser les anciens. On cachérise comme faisaient nos mamans, nos grands-mamans, nos arrière-grands-mamans dans tous les pays depuis l'époque de Moshe Rabbeinu. On cachérise. Comme on cachérise, il y a quelques règles à connaître. Ils ne sont pas trop difficiles. La première règle s'appelle que bol'o karpolto. Comme le goût de Hametz est rentré, comme ça, le goût de Hametz, il va sortir. C'est-à-dire que si j'ai une marmite dans laquelle je cuis du Hametz, alors c'est avec de l'eau bouillante. Donc le goût de Hametz est rentré dans la casserole, et bien va sortir avec de l'eau bouillante. Donc on remplit la marmite avec de l'eau bouillante, on le met sur le feu, on le fait bouillir et on bouge la marmite pour que l'eau déborde. Et cette marmite est cachère, il est cachérisé. Et si on fait la cachérisation avant Pessah, avant la cinquième heure, on n'a pas besoin de faire attention à beaucoup de choses. La cachérisation pour Pessah est plus facile que la cachérisation après un chazir. Quand on veut, quand quelqu'un il avait de la viande pas cachère, il a acheté une marmite d'un non-juif. Il avait cuit le goy, le viande pas cachère, on peut aussi cachériser. Il y a des halakhot qu'il faut attendre 24 heures après que le non-juif a cuit la viande. Ou Hametz bePessah, on n'a pas besoin d'attendre 24 heures. Si on fait le hersher, comme tous les juifs, avant Pessah, avant qu'il arrive le moment de l'interdiction, faites la cachérisation, même une marmite, il y en a et utilisé pendant Hametz, même le 24 heures, on peut cachériser. Les fourchettes et les assiettes, toutes les choses qu'on mange dedans, selon le din strict, on cachérise selon l'utilisation normale. Alors, je m'explique. Il y a différentes catégories de goût qui peuvent rentrer, de façon que le goût peut rentrer dans une marmite. Il peut rentrer par de l'eau chaude, on a cuit dans une marmite. Des fois, on verse de l'eau bouillante sur des hametz dans une soupière. Des fois, on verse du hametz sur une cuillère. Des fois, on mélange avec les cuillères dans la marmite. Des fois, on grille le pain. Alors, si on grille le pain sans liquide, le goût qui rentre, il est très fort. Fait le métal très, très fort, ce qui est difficile aujourd'hui. Mais quelque chose qu'elle a coutumé d'utiliser avec de l'eau bouillante qu'on verse dessus, se cachérise en versant de l'eau bouillante dessus. Quelque chose qui a touché le hametz, qui a la coutume que le hametz, il est à l'intérieur de la casserole et cuit, cette casserole, elle est cachérisée en laissant de l'eau bouillante à l'intérieur de cette casserole. Mais, donc, on marche après la majorité. Ça veut dire que si je vais avoir un objet que normalement on l'utilise qu'avec de l'eau bouillante, mais exceptionnellement, peut-être cet outil a touché du pain sans eau, mais directement sur le feu, malgré qu'il a touché sur le feu. On aurait dû cachériser avec du feu, mais comme la majorité d'utilisation, c'est dans de l'eau, ça suffit cachériser avec de l'eau. Alors donc, la halakha Shulchan Aruch, elle est, on marche comme de la façon normale qu'on utilise l'objet, comme ça on cachérise. On peut bien sûr cachériser un peu plus fort. Plus fort, on peut le jour, mais moins fort, on ne peut pas. Dans la pratique, ça donne quoi? Si j'ai des fourchettes, si j'ai des cuillères que j'utilise que dans l'assiette, qui est klisheni, ça suffit de laver avec klisheni. À plus forte raison, je verse de l'eau bouillante dessus, c'est kasher. À plus forte raison, si je mets mes assiettes et mes couteaux et les fourchettes dans une marmite qui est sur le feu, je le mets tout dedans. Automatiquement, c'est cachérisé. Une fourchette après l'autre, on met dedans, tout est cachérisé. Mais les fourchettes, les cuillères, on n'a pas besoin de le mettre dans la marmite qui bouille. On peut verser dessus. Sauf la louche avec, ou le cuillère avec lesquelles on tourne la soupe du hametz dans la marmite. Cette louche, il faut la cachériser en le jetant dans l'eau bouillante sur le feu. Parce qu'on a la coutume de l'utiliser avec, dans la marmite, avec de l'eau bouillante sur le feu. Donc, la cachérisation se fait, on le met dans le feu. L'Ashkenazim, ils ont une choumra, que tous les assiettes, ils ont la coutume de cachériser sur, peut-être une fois se toucher. Donc, ils mettent tout dans la marmite qui bouille. Donc, on a une marmite même de Hametz. On n'a pas besoin de prendre une marmite de Pessah. On prend une marmite de Hametz et on met dedans tout ce qu'on veut, une après l'autre, dans l'eau bouillante. On regarde que c'est toujours de l'eau bouillante, que ça bouille, et on met une chose après l'autre dedans. Alors, tout est cachérisé. Maintenant, ce qui concerne le porcelaine, alors, il faut savoir quelque chose. À l'époque de la Gemara, il existait une chose qu'on ne peut pas cachériser, ça s'appelle kheres, l'argile. L'argile est très poreuse, a été très poreuse. Il y a différentes sortes d'argile à l'époque de la Gemara, mais les argilim à l'époque de la Gemara, ils étaient très poreux. Tous les enfants qui sont en cheder, ils savent la Mishnah dans Becher Bava Metzia, que quand un homme y met pour la première fois du vin dans un tonneau d'argile, eh ben, l'argile absorbe pour la première fois ou un cinquième ou un sixième du vin. On met 60 litres du vin dans un tonneau d'argile, eh ben, après quelques jours, il n'y aura que 50 litres de vin. 10 litres sont absorbés dans l'argile. Ça, c'est l'argile à l'époque de la Gemara. Et sur l'argile, la Torah, elle a dit, on ne peut pas cachériser. C'est marqué dans la Torah, Imkli cheres bouchala. Mais il faut le brûler. On a fait ça hier matin, même qu'on n'était pas à la choule, mais à la maison, on a étudié. Shnaim ikraver hatargum, que ça, c'est l'argile à l'époque de la Gemara. Après, on change un peu l'argile et on cuit, je faisais autrement, c'est devenu moins absorbable. On a gardé le mina, klicheres, c'est klicheres, on ne peut pas cachériser. Mais à partir du 20, à la fin du 10e siècle, au 19e siècle, ça a commencé, la porcelaine de Chine qui est venue, on a cuit avec des chaleurs beaucoup plus grandes, 800 et après encore enfin 1200 degrés, etc. Alors, le porcelaine de Limoges, c'est fabriqué autrement. Et il me semble, à Gemara, on voit que l'argile, quand ça absorbe pas, quand c'est pas comme autrefois, dans ce cas-là, ben, pas tout, on peut cachériser. C'est pour ça que je pense que ce qu'on appelle aujourd'hui porcelaine, en principe, on peut cachériser. C'est pas pire que le bois. Le bois. Est-ce que vous pouvez éteindre la Galaxy S6, madame? Galaxy S6, si on peut éteindre. Alors, Moshe, tu peux m'éteindre la Galaxy S6.
Tout le
Moshe, tu
monde
es
est
là?
éteint.
Hein?
Tout le monde est éteint.
Non, la télévision, tu m'éteins. La Galaxy 6, d'accord? Mais c'est là. Alors, on va continuer. Il y a Galaxy S6, tu es Moshe, éteins-moi ce truc-là. Elle n'entend pas. Alors, où nous sommes?
C'est bon, c'est bon.
D'accord. Alors, maintenant, dans le Shulchan Aruch, on nous dit qu'on peut kachériser les ustensiles en bois. On peut kachériser les ustensiles en corne si ça s'abîme pas, si la corne ne s'abîme pas. On peut kachériser de la pierre. La pierre aussi est kachérisable. Ou même un ustensile en os, on peut. Ou en bouse de vache, ça existait autrefois. Tout ça, on peut kachériser. La seule chose qu'on ne peut pas kachériser, c'est l'argile. Mais l'argile, quand les Achronim parlaient de l'argile, ils parlaient l'ancienne argile, l'ancienne porcelaine. Les Chorah, on ne parle pas du porcelaine d'aujourd'hui. Probablement, on peut aussi kachériser. Personnellement, je pense que même le plastique, on peut kachériser. Parce que nous n'avons pas de source de dire qu'on ne peut pas kachériser les Chorah. L'Ashkenazim, il ne kachérise pas le verre. Parce que c'est bien du sable. Mais c'est un chumra à la khatrila, c'est pas ma akev. Et si on a utilisé le verbe klisheni, c'est beaucoup plus facile. Mais ça, c'est un chumra que l'Ashkenazim, ils ont. Mais c'est pas un halakha. Maintenant, ça, c'est au niveau de kachérisation. Maintenant, on va voir un petit peu le seder. Il y a une mitzvah, Yom Tov, de se réjouir et de raconter la sortie d'Égypte. C'est la base de la émouna d'un juif. C'est très important. Raconter la sortie d'Égypte, c'est une mitzvah tasei min haTorah. Manger la matzah aussi, manger la maror aussi. On me demandait aujourd'hui une question, il y a beaucoup de gens qui ont perdu le goût de la bouche. Alors, ils vont manger la maror, ils ne vont pas sentir le goût amer. Est-ce qu'on peut faire la mitzvah? C'est une bonne question, je ne sais pas de réponse, parce que la Gemara nous dit, ceux qui avalent le maror sans le mâcher, il n'est pas yotze la mitzvah, parce qu'ils ne sont pas le goût amer. Alors, si on a perdu le goût, peut-être on est dispensé de la mitzvah de maror. Peut-être oui, peut-être non. Bon, si dans votre famille, il y en a un qui a perdu le goût, et l'autre n'a pas perdu le goût, vous demandez à ceux qui n'ont pas perdu le goût de faire la bracha à Shirki Dishanam Isota Betsivan Achit Maror, il va rendre yotze tous ceux qui ont perdu le goût, comme ça tout le monde, il a fait la bracha et après mange le maror. Si on est yotze, on est yotze. Et si la halakha dit qu'on n'est pas yotze, ben on n'est pas yotze, mais on n'a pas fait bracha la vatala, il y en a un. Même si c'est un enfant qui n'a pas perdu le goût, il peut faire la bracha, il peut rendre yotze les parents qui ont perdu le goût. Maintenant, il y a une mitzvah de se réjouir. Il y a une mitzvah de remercier Dieu. La fête de Pessah, c'est une fête très, très profonde. Très profonde. La Emouna, qui est Akadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde. Et c'est lui qui est le chef du monde. Et il remet les choses en place. Les Esser Makot, raconter les Esser Makot, peut-être cette année, ce sera peut-être plus facile à raconter les Esser Makot. Cette année-là, Dever, Shechin, Hashem Yirachem, aujourd'hui, on comprend un peu mieux quand Rabbi Yossi Aglil, il a dit, « Menayin shekol maka umaka sevi akadosh baruch hu mitzrayim haite shel arba makot. » Chaque coup avait quatre coups. Aujourd'hui, on voit une maladie, mais ça désorganise beaucoup de choses. C'est la maladie elle-même et il y a plein de conséquences. Aujourd'hui, on peut un peu mieux imaginer, et comme il y a une mitzvah pendant la nuit du Seder, Kol dor vador chayav dam lirot et atzmo keilu hu yatsam mitzrayim. Dans chaque génération, chaque homme, il doit se sentir comme lui, il est sorti d'Égypte. Il doit s'imaginer, il va Moshe, Aaron et les Juifs, et les 600 000 Juifs, et tout le monde chante à la sortie d'Égypte. Il faut s'imaginer les Samakot et tout ce qui s'est passé. Et ça, peut-être cette année, c'est plus facile, c'est la fête, il y a encore, on sera bien, on chez mon cours plus proche, tout en bonne santé, en restant tous en bonne santé, être encore plus proche d'Hachem. Alors, ça c'est donc le mitzvah du Seder, c'est connu. Il y a la Arba Kossot, arba kostot, ou du vin, ou du jus de raisin, aussi un ayotse. Si le vin il fait endormir, c'est pas kedai, dans ce cas-là, c'est mieux du jus de raisin. On prend les quatre coupes, on les boit, et on fait le seder. Maintenant, il y a des personnes âgées, ils sont seuls, ils ont la coutume de faire le seder avec les enfants, et cette année, ils ne peuvent pas faire le seder avec les enfants. Alors, ils ont des matzot, on espère, ils ont des arba kostot, mais des fois, ils ne savent pas lire le seder. Ils ne savent pas lire la Haggadah. Et la mitzvah de raconter Yetzirat Yisra'il, c'est une mitzvah. Alors, le conseil, et s'ils n'ont pas de Haggadah en français traduit, eh bien, qu'ils lisent le Chumash. Ils peuvent lire le Parsha Shemot, Vaera, Bo. On raconte toute la sortie d'Égypte. Quand on lit le Parsha Shemot, Vaera, Bo, même si on lit le premier chapitre de Shemot, et après on lit Parsha Bo, on parle des souffrances des Juifs. Et après, on parle des Makot, et après, on parle de la sortie d'Égypte. Il y a tout dedans, Pessah, Matzah, Maror, et les Nissim de Makat Bechorot. Et si on lit par Parshat Vayera, on aura tous les 100 Makot. En lisant dans le Chumash, quelqu'un qui a un Chumash traduit en français, le Yotzel, Minatora. Et donc, il y a les Brachot qu'il faut faire. Les Brachot, ceux qui allaient le Sidour. Il fait les brachot dans la Haggadah, si tu ne peux pas lire, il ne le fait pas, il fait au moins la mitzvah. Et si pour Yetziat Mitzrayim, en lisant dans le Chumash traduit en français, on peut être Yotze Minatora, la mitzvah. Maintenant, il y a beaucoup de coutumes, Pessah. Les coutumes, dans la mesure qu'on peut les appliquer, on les applique. Et une coutume, mais ça, c'est peut-être plus qu'un coutume. Ça, c'est une obligation. L'obligation, c'est de voir que les autres Juifs font aussi le seder. Alors, cette année, c'était une obligation encore plus parce que les gens sont des fois, ils sont un peu pas dans un état normal. Donc, il faut s'occuper. Si quelqu'un, il a chez moi, il est voisin des pauvres. Évidemment, il y a une mitzvah de... Une mitzvah de s'occuper, de téléphoner pour voir s'ils ont tout, et pas seulement pour le Pessah, pour la santé. La mitzvah de Chesed, de s'occuper de la santé de chacun, des personnes âgées, des personnes qui sont seules. Évidemment, ça fait partie. Alachma adiachal avotan wa'arad mitzrayim, kol dichfinit vi'echol, kol ditzrichet vi'psach, que chacun il a besoin de corps Pessah, je l'invite chez moi. Aujourd'hui, des fois, c'est difficile à inviter. Alors, avant Pessah, il faut s'occuper. Et tous les gens qui s'occupent des Gemilot Hassadim et tous les Gabbai et Tzedaka, évidemment, Baruch Hashem, tout le monde s'occupe. Et les gens, ils connaissent les Gabbai et Tzedaka dans la ville. Et donc, la mitzvah d'aider aux Gabbai et Tzedaka pour qu'ils puissent donner tout ce qu'on a besoin. C'est une mitzvah plus forte cette année que chaque année. Il y a plus de besoins, il y a plus de gens qui sont dans le besoin. Les gens ils n'ont pas reçu, beaucoup n'ont pas reçu la paye, ils ne sont pas dans leur magasin, il y a des difficultés. Ça, c'est une mitzvah, une grande, grande mitzvah. Le chesed de Gemilot Chassadim et de Tzedaka, et fait partie du Pessah, Vadaï. Ça fait partie du Pessah de Yontov. Dans la Yontov, c'est marqué Vesamachta Atta, ou Bincha, ou Bitra, ou Amatecha, ou Gercha. Il y en a 8 personnes, 4 sont de la famille de la personne, et 4, le Lévi, le Ger, Yatom va Almana, la veuve, l'orphelin, il faut les inviter, et le marqué dans la Gemara, à Kadesh Baruch Hu, il dit, celui qui s'occupe de mes 4, je m'occupe de ces 4. Celui qui s'occupe de Yatom, Almana, guerre, les vies, les pauvres et les gens seuls, eh bien, il aime Sameach Otam, Akadesh Baruch Hu, il veut Sameach les siens, le monsieur, la madame, ses fils, sa fille, sa propre famille, quand on aime Sameach les autres, Akadesh Baruch Hu, il aime Sameach les personnes, ceux qui peuvent par téléphone, ceux qui peuvent s'occuper, il a la mitzvah, ceux qui avec de l'argent, ceux qui a plus d'argent, les filles, la bracha qu'Akadesh Baruch Hu donne. On est tout ça, ça fait mitzvah de toute l'année, spécialement dans cette époque-là et pour ce Pessah.